Choukran. Merci.
J'arrive.
Musique du monde. Laurence Alloa. Sur RFI.
Seidati Wosedati, au pays des souks, des amazirs, des éliges, le carrelage, des ouaks, la peinture, des chats fauves sur les terrasses, des gnawa, des djellabas, des amateurs de kasbah, ces audaces qui sont les siennes depuis l'enfance, et on voit qu'on a trop lu tard Benjeloun. Oum est notre invité pour présenter son nouvel album Dakshi, enregistré en public à Marrakech le 22 juillet 2023. Entouré de ses fidèles musiciens, l'artiste marocaine fait la peau à 10 ans de carrière et permet à des chansons qui appartenaient au passé de prendre l'air et la chanson. Une soirée avec Oum à Marrakech, c'est maintenant sur RFI. Je peux vous demander ce que vous faisiez le 22 juillet 2023 ?
Eh bien, j'étais dans ma ville, Marrakech.
Marrakech,
par 40 et quelques degrés, la nuit. J'ai fait un concert, mon premier concert dans ma ville, depuis toutes les années que je chante au Maroc. Je fais plein de concerts, mais jamais à Marrakech. Donc, je me suis offert ce concert et je nous ai offert une soirée, une semaine, avec mes compagnons. De route et de musique pour faire mon premier concert à Marrakech.
C'est-à-dire que pendant une semaine, vous étiez en résidence avec votre noyau dur de musiciens, ceux qui vous suivent depuis
12 ans.
Depuis Soul of Morocco, sauf erreur, Soul of Morocco, Zarabi, Daba. Il y a eu deux autres albums avant, mais enfin, c'est pas qu'on les oublie, mais ils sont
on
moins.
On commence à compter depuis la France et l'international.
Donc depuis 2013, vous étiez dans un endroit qui s'appelle La Source. Alors quoi, c'est un complexe hôtelier, c'est un studio d'enregistrement, c'est une salle de concert. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un très très beau jardin avec des petites maisons éparpillées dans ce jardin. C'est un super lieu de vie. Où on relaxe et on sent la vibe et l'âme de Marrakech. Le propriétaire est un fou de musique. Donc, dès qu'il a installé son lieu, il a mis un studio d'enregistrement dont on s'est servi, nous, pour les répétitions. Et puis, il y a une scène, ce qu'il appelle l'aréna. C'est une petite scène en plein air avec des gradins, une capacité de 500 personnes à peu près. Et voilà, donc on a passé une semaine là-bas en résidence, certes, pour réarranger les morceaux et pour répéter, mais aussi pour nous retrouver et nous célébrer la dernière décennie qu'on a passée ensemble.
On peut peut-être en parler de ces musiciens. Il y a Damian Nueva.
Tout à fait.
Vous savez pourquoi je commence par lui ?
Non.
Il a fait partie effectivement de cette série de 8 épisodes d'IEDI qu'on pouvait voir. Je crois qu'on peut toujours
encore,
sur Netflix. Et c'est surtout Damien Chazelle qui avait réalisé les deux premiers épisodes. Et Damien a eu un épisode à lui parce qu'on suit un orchestre de jazz dans un club avec ses hauts et ses bas. Et Damien faisait partie de l'orchestre de cette boîte de jazz qui s'appelait IEDI, qui avait lieu à Paris.
Exact. Et il a eu un rôle de composition assez fort.
Il est bien à l'écran.
Il est bien à l'écran. Il a eu un rôle assez difficile, en fait. Jouer le rôle d'un camé, un héroïnomane, alors que pas du tout. Il ne fume même pas une cigarette, lui, dans la vraie vie. Il ne boit
pas
d'alcool.
Ça s'appelle l'acting. On n'est pas censé jouer qui on est.
j'ai trouvé son rôle très, très fort.
Ouhoud, Yasser Rahmi, vous le connaissez depuis combien de temps maintenant?
Yasser Rahmi, pareil, depuis 2012. Et que j'ai connu... Bizarrement, on avait besoin juste pour l'enregistrement de Soul of Morocco d'un oudiste qui serait venu faire 3 morceaux et qui n'aurait pas été dans le groupe. Bon, c'était juste pour l'enregistrement. Et je suis tombée amoureuse de sa personne, de sa subtilité, de sa douceur. Et on a décidé qu'il fallait absolument qu'il soit dans le groupe. Et depuis, il est avec nous. Il a composé 2 morceaux de mon répertoire. On s'entend super bien. J'ai découvert plein de musiciens avec lui, plein de musiques.
Quels sont les 2 morceaux qu'il a composés ?
Alors, il a composé Hna, oui, dans Zarabi, et il a composé Fasl, qui est le premier morceau dans la tracklist de Daba.
Et Camille Passeri, la trompette, a composé aussi ou pas du tout ?
Camille Passeri s'est joint à nous pendant le début de la tournée de Zarabi, parce qu'on a enregistré le disque avec Yelfris Valdez, qui est aussi un Cubain basé à Londres. Et puis, on ne pouvait pas faire tout ça, on pouvait pas commencer la tournée avec Yelfris, puisqu'il était engagé ailleurs. Et donc, on a rencontré, via d'autres musiciens, Inor Sotolongo d'ailleurs, un autre Cubain, via Natasha Rogers, qui connaissait déjà Camille. Camille était hyper partant. Apparemment, il nous connaissait déjà, il connaissait le répertoire, il aimait cette musique.
Natasha Rogers, Amar Chaoui, qui se partage les percussions.
Absolument.
Natasha qui a une carrière aussi solo.
Exactement, et qui a sorti un super disque.
Oui. Carlos May, on dit Mejas.
Mejias.
Mejias, saxophone.
Exactement, et qui m'a accompagnée aussi dans Hell. Donc c'est ce disque qui n'est pas sorti en physique et qu'on a fait pendant les 2 années ou je sais pas combien du Covid.
1000 ans.
Voilà.
Ressenti 1000 ans.
Voilà.
Alors, Cuba est magnifiquement représenté dans votre répertoire. Vous parliez d'Inor Sotolongo et de Damian Nueva. Est-ce que c'est parce que ces musiciens sont là que vous avez repris Lagrimas Negras ou c'est parce que vous aimez déjà le répertoire cubain que ces musiciens sont venus vers vous ?
En fait, le répertoire cubain, je l'ai vraiment découvert avec Damian. D'abord dans Zarabi, parce que en tournant Soul of Morocco, en voyage sur la route, on écoute, on se fait découvrir plein de choses les uns les autres. Et c'est comme ça avec Damian que pendant la tournée de Soul of Morocco, je découvre Bente Años de Maria Teresa Vera. Et je craque complètement et tout de suite je sens que ça sonne très bien, ça va sonner très bien en arabe d'Alija. Et c'est hyper fluide, en fait, je fais la traduction, ça vient tout seul. Je ne sais même pas si c'est moi, en fait, c'est comme si j'étais un canal, et ça vient tout seul, et ça marche super bien. Et donc, on enregistre Bente Años dans Zarabi, et entre-temps, on écoute pas mal d'autres choses cubaines. En même temps, je découvre que dans la musique cubaine, ce que je ne connaissais pas forcément, et que je découvre qu'il y a vraiment beaucoup de ressemblances, notamment rythmiquement, avec les rythmes du Maroc, et c'est 6-8... Et ces rythmes ternaires du Maroc et cette polyrythmie, on est un peu cousins. Et donc, d'une part, j'étais rassurée et heureuse parce que ça ne faisait pas. Mes rythmiques ternaires ne faisaient jamais peur aux musiciens cubains. Par ailleurs, je découvre que chez eux aussi, il y a des claves qui ressemblent à ce qu'il y a chez nous. Et donc, Lagrimas Negras, c'est un morceau qu'on écoute tout le temps sur la route, qu'on n'a jamais enregistré, qu'on a joué une fois au concert à la Cigale, en 2017, je pense, pendant la tournée de Zarabi. Et on l'a enregistré. Et les gens, l'audience, ont adoré ce morceau. Pareil, j'ai traduit une partie en arabe d'Alija. Et donc, quand vient le moment de faire la liste, de shortlister, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre comme best-of dans une chanson d'Andakchi, c'est Camille qui m'a dit, sérieusement, tout le monde aime Lagrimas Negras. Il n'y a qu'une vidéo sur YouTube. Franchement, il faut la mettre dans un disque. Et que... Ok. Et donc on a enregistré La Grimace Negras.
Grimas Negras, donc une chanson qui était composée par un cubain dans les années 30.
Exactement, par Miguel Matamoros.
Absolument, et qui était repris par Celia Cruz, Diego El Cigala, avec Bebo Valdés, etc.
Absolument.
Oh, je vois que madame connaît ses classiques. Il y a une autre partie dans cet album aussi où vous mettez en avant Damian Nueva. Décidément, on en parle beaucoup dans cette émission. C'est Toda la Gente.
Toda la Gente, c'est une chanson qu'il a écrite et composée, qui parle de sa mère. À Damian.
Les musiciens et leur maman.
Et leur maman. Mais je crois que tout le monde, hein, c'est pas que les musiciens.
Et pour vous, ça se passe comment?
Bah alors, je suis pas là pour ça, mais pour le... Si, si, mais pour le... Si, si, avec ma mère, on est de plus en plus proche. C'est différent maintenant.
C'est bien.
Je la sens, alors qu'avant, c'est ma mère. Et elle est différente, et je suis qui je suis, et elle est qui elle est. Et je l'admire, mais je ne suis pas elle du tout. Et récemment, je sens que si mon père m'a donné les talents, et ben, ma mère me donne la force. Et je me sens beaucoup plus proche d'elle maintenant.
Dekshi, qu'est-ce que ça veut dire ?
Dekshi, ça veut dire littéralement Dekshi. Shi, c'est la chose. Cette chose ou ces choses, on va dire ces choses-là. Mais c'est aussi une expression qu'on met à la fin des phrases au Maroc. Quand on parle, on dit quelque chose. Ou Dekshi, ça veut dire et tout ça. Et tout ça, ça veut dire et ça que tu sais. Dekshi, c'est tu sais. Toi-même, tu sais.
D'accord, je vais appeler Claudicia. Tu peux changer son slogan.
Et Dekshi, ben voilà, pour moi, c'est toutes ces choses. D'abord, c'est toutes ces chansons que les gens aiment et qu'on leur resserre parce qu'ils les ont à chaque fois redemandées. Il faut dire que quand on fait la tournée d'un disque, ben, je ne chante plus les morceaux d'avant.
Oui, c'est vrai, vous ne faites jamais ça, vous vivez dans le présent. Donc tout ce que vous avez écrit quelques années auparavant, ce n'est pas que ça ne vous intéresse plus, mais ça n'a pas de sens.
C'est pas d'actualité pour moi.
Et cet album, ben, précisément, c'est de revoir tout ce que vous faites depuis une dizaine d'années.
Exactement, et de le re-offrir à ceux qui l'ont demandé. Et aussi l'occasion pour nous de le revisiter et de voir comment il sonne avec notre musique d'aujourd'hui. Parce que la musique, je ne sais pas, on ne va pas dire elle grandit, mais... Elle s'élargit, elle se transforme comme nous, non ? Nos musiques sont les versions, enfin nos identités audio, on va dire. Et chacun avec ses projets aussi personnels et les autres projets dans lesquels il est investi, il ou elle. Et c'était intéressant aussi de voir où on en était et quelle interprétation aujourd'hui on pouvait donner à ces morceaux d'avant. Et l'occasion aussi, de, comme pour un album photo qu'on ouvrirait et qu'on feuilletterait ensemble... retrouver les odeurs, les souvenirs justement de ces tournées, de ces voyages, de nous plus jeunes. On s'accompagne depuis quelques années, on s'est vu se mettre en couple, les couples se défaire pour certains, pour d'autres non, c'est très bien aussi. Avoir des enfants, nous revoir dans le miroir d'aujourd'hui avec les habits d'hier, quoi.
Sur cet album live, donc, qui a été enregistré à Marrakech en 2023, vous n'intervenez pas, en tout cas dans l'enregistrement, vous ne vous adressez jamais au public, vous n'êtes pas du genre dire « Bonjour Marrakech !» C'est pas un truc qui vous est familier, ou alors vous avez décidé de faire quand même quelque chose de très très propre, musique, avec un ingé son qui a fait un très très beau travail.
L'ingé son que je salue, Léo Spiritov, qui a juste super assuré, c'était des conditions assez particulières. Assez difficile en fait, parce qu'on jouait en plein air, on faisait un one shot, on a répété toute la semaine, mais on faisait un seul enregistrement. En général, quand un artiste décide d'enregistrer un album live, ils ont déjà fait une tournée et à la fin de la tournée, ils décident que dans cette ville, on va enregistrer là et là et là, parce qu'on sait que le public est bien, parce qu'on a un bon feeling, parce que la salle est cool et parce que surtout, on va être prêt, parce que les morceaux, on les a fait 1000 fois et on est prêt à enregistrer. Nous, on a fait un peu le truc à l'envers, c'est-à-dire on va répéter pendant une semaine et on va enregistrer une seule fois et on croise les doigts pour que ça se passe bien.
Sur le premier titre qu'on a écouté dans cette émission, Leak, donc vous avez fait en public... les gens chantent à votre place au début. Vous vous souvenez la première fois où les gens ont repris vos chansons dans une salle de concert? C'est là, à ce moment-là, qu'on se dit « Ah, mais ils ont écouté, ils connaissent, ils chantent, ça fait quel effet ?»
Ben, ça fait toujours un effet assez surprenant mais jusqu'à maintenant, même si, par exemple, pour tel ou tel morceau, je sais que les gens le connaissent par cœur, mais toujours les entendre le chanter avant nous, avec nous, plus que nous, ça fait quelque chose. On n'y croit pas, en fait. Le morceau ne nous appartient plus et les gens y voient ce qu'ils ont envie d'y voir et s'y identifient. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai dit oui pour faire ce disque-là, même si je ne suis plus dans la même phase émotionnelle et de vie comme celle où j'étais quand j'ai fait ces morceaux. Mais c'est pour ces gens. J'étais là, en fait, pour interpréter pour eux leurs chansons.
Comment ça s'est passé pour faire le choix? On en a parlé un tout petit peu, mais on a vraiment survolé pour choisir quelques titres, c'est-à-dire quoi? Il y en a 13?
Bah, le choix, en fait, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas ne pas faire, même si on n'avait pas envie. Voilà.
D'accord.
Leak, par exemple, il fallait la faire absolument. J'ai fait une petite shortlist, j'en ai parlé avec les copains, et j'ai demandé aussi aux gens sur les réseaux. J'ai fait un petit sondage et les morceaux sont comme ça remontés. C'était à peu près ce qu'on avait choisi. Et ensuite, j'ai invité Damian quand même à faire son Toda la Gente. Donc dans le disque, il chante avec Natasha.
Rogers.
Natasha Rogers. Et c'est juste contrebasse et leurs deux voix. Et en fait, Toda la Gente, elle sert d'intro pour le morceau qui s'appelle Man Seat. Pour le coup, j'ai bien voulu le jouer d'une façon cubaine. C'était un morceau qui est, elle est très marocain, voilà, avec son mode. C'est une musique modale avec une rythmique marocaine, ainsi de suite, encore une fois. Et je me suis dit, on va inverser. Et Toda la Gente démarre et donne le la rythmique de Man Seat. C'est une chose très cool en fait aussi qui se passe là, parce que pour la première fois j'ai cette mini section cuivre qu'on n'a pas eu véritablement. Même dans Daba, ils jouent tous les deux le saxophone et la trompette, et on a arrangé, on a fait des arrangements pour eux, et c'est bon de les avoir tous les deux à souffler, c'est très beau.
Oum, sur cet album Dakshi, qui est un disque qui a été enregistré à Marrakech, je vous laisse rappeler la date parce que je ne m'en souviens plus.
Le 22 juillet 2023.
Ben, je m'en souvenais très bien finalement.
Oui.
Je voulais l'entendre dans votre voix. Cette ville fait partie évidemment de cet album. C'est la ville où vous êtes née ?
Non, je suis née à Casablanca. Mais ma ville, c'est Marrakech, oui, c'est là que j'ai grandi, enfance, adolescence, tout ça.
Vous vivez entre la France et le Maroc ?
Pas du tout.
Dites-moi.
En fait, ça fait que 4 ans que moi je vis en France et je n'ai jamais vécu ailleurs qu'au Maroc toute ma vie. C'est la musique qui m'a emmenée un peu partout, mais je faisais des allers-retours et j'ai toujours vécu au Maroc. Même pas pour des études ou...
C'est votre pays, c'est là où vous vous sentez bien ?
Moi, c'est mon pays, je me sens très très bien, mais ici aussi je me sens très bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas loin, on peut y aller quand on veut.
Vous avez une maison à Marrakech ?
Je n'ai pas une maison, j'ai la maison de mes parents. C'est une petite maison villa dans une espèce de cul-de-sac. C'est des maisons de fonction en fait, mes parents étaient fonctionnaires, donc c'est, toutes les maisons sont les mêmes, avec un petit jardin, avec 4 bigaradiers où il y a des orangers maintenant, il y a des fleurs d'oranger qui sont déjà sorties. Il fait trop chaud pour la saison, mais ça sent déjà la fleur d'oranger. Quelques palmiers. Marrakech a embelli, il y a une embellie en ce moment de Marrakech juste incroyable. Ils ont planté des arbres partout. Marrakech en plus a un plan urbaniste qui est super beau en fait. C'est tout est calé sur la Koutoubia. En fait, il faut absolument qu'on voit toujours dans les perspectives des avenues le minaret de la mosquée de la Koutoubia. Il faut que les immeubles ne dépassent pas 4 ou 5 étages pour ne jamais faire d'ombre aux palmiers. Il faut que toujours aussi à l'horizon on puisse voir le Haut Atlas enneigé quand c'est le cas. Donc il y a une certaine logique un peu urbanistique qui n'a pas bougé et qui a été embellie. Les avenues ont été élargies et ils ont planté un petit peu partout. Donc évidemment, il faut beaucoup d'eau pour arroser toutes ces plantes. Mais bon, j'imagine que tout a un prix. Et en tout cas, Marrakech est de plus en plus belle.
Donc ce 22 juillet 2023, est-ce que vos parents se sont déplacés pour vous voir en concert, pour vous
Évidemment,
écouter ?
Évidemment, ils sont venus.
Alors ?
Ils sont venus à la répétition la veille, ils sont venus au concert. Ils étaient très émus de voir justement tout ce monde chanter avec moi en chœur. C'est toujours très émouvant de les avoir. Bon, mon père est parti, hein, Allah yirhamo.
Il n'est plus là.
Il n'est plus là, il est parti. D'accord. Il n'y a même pas 2 semaines, en fait. Et donc, oui, et mon papa était là, il était très ému, il était fatigué. Il est venu à la répétition, et à la répétition, il n'y avait pas de public la veille. Donc, le vendredi soir, on a fait un concert, mais sans l'enregistrer. Et papa et maman étaient là. Et normalement, c'était plus simple pour lui. On s'était dit que le lendemain, le jour du concert, il allait y avoir trop de monde. Et donc, lui, il a du mal à marcher et tout ça. Donc, il n'allait pas venir. Mais il a vu la répétition et était en mode, s'il vous plaît, enfin, où je veux venir. C'est pas grave, je vais marcher. Et donc ils étaient là.
Quand vous avez pris la décision de devenir une artiste, une musicienne, chanteuse, auteur, compositeur professionnel, quelle a été la réaction de maman et de papa ?
Tout va bien.
C'est vrai ?
Ah ouais, tout va bien. Alors, le seul truc, c'est que je faisais des études d'architecture.
C'est pour ça que vous nous parlez de Marrakech, des hauteurs, des immeubles, les palmiers, etc. Oui, bien sûr.
Je chantais déjà depuis quelques années et j'en gagnais ma vie et en même temps que j'étais étudiante à l'école d'archi. En 6e année, j'ai fini mon travail de mémoire.
Et sur quel sujet ?
Sur la Casbah de Telouette. Alors c'est une forteresse, c'est un bâtiment incroyable qui se trouve dans le Haut Atlas, sur le col du Telouette, entre Marrakech et Ouarzazate. Et c'était le fief de la famille Glaoui, en fait. Et donc c'est une casbah, c'est un village sur lequel il y a eu une ombre et une colère, parce que c'était le fief de cette famille qui a failli renverser le roi. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à cette casbah et surtout d'en faire les plans parce qu'il n'y avait pas de documents graphiques, en tout cas. Il y avait quelques livres, très petite bibliographie, notamment un super bouquin de Gavin Maxwell, Lords of the Atlas. Et c'est une casbah que je connaissais parce que ma meilleure amie, dans mes années de lycée, son papa, Hamid Triki, est le grand historien du Maroc et des Almohades, et donc jusqu'à l'indépendance. Et ils connaissaient cette casbah, ils y allaient tout le temps. Et donc je connaissais la casbah et j'ai décidé de faire mon travail dessus. Et en fait, une fois que j'ai passé 1 an et demi à aller faire les plans, les relever, parce qu'ils n'existaient pas nulle part, et que surtout c'est une casbah qui a été construite en plusieurs années par plusieurs chefs. D'abord par le Qaïd Mohamed Glaoui, ensuite par son fils, ensuite par le frère. Et chacun a voulu à chaque fois faire davantage, vraiment comme un palais. C'est une casbah un peu type berbère, en terre et en pierre. Mais à l'intérieur, il y a des salons avec du zlij, des coupoles en bois sculpté, absolument invraisemblable pour la région. J'ai fait les plans. Et pour moi, j'avais fini ma mission. Et que aussi, pas la pression, enfin, vous parliez des parents, c'est pas tellement les parents. Les parents aussi, un petit peu, ils ont dit juste, est-ce que tu es sûre de vouloir aller faire de la musique? Bon, on est dans les années, début des années 2000, il n'y a pas encore les radios libres au Maroc. Le genre de musique, mon genre de musique n'a pas sa place sur les ondes. Donc je fais du corporate, je chante dans des restos, etc. J'écris pas encore, moi, de texte, je fais pas de musique, ma musique en fait. Et dans ce sens que la musique n'était pas quelque chose de certain, il fallait quand même avoir son diplôme et un backup. C'est quand même mieux d'avoir un diplôme. Tu sais, une chanteuse architecte, c'est pas comme une chanteuse tout court. Et donc moi, à un moment donné, là, ça me fatigue. Et je me dis, je prends mes responsabilités. Et je pense que l'architecture m'a donné ce qu'elle avait à me donner. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Et j'ai donné aussi les plans de cette casbah qui n'existaient pas. Aujourd'hui, ils existent parce que je me suis mise sur les genoux pendant 1 an et demi à faire tous les relevés dans des dédales, des endroits inaccessibles. Et que pour moi, c'était fini et que j'allais voir cette aventure, ce que ça allait donner. Et donc, pour répondre à la question des parents, non, en fait, mes parents, que ce soit pour cette histoire ou depuis toujours, en fait, on discute, tu fais tes choix, on te dit ce qu'on pense. Si tu te trompes, tu te débrouilles. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont hyper méga fiers. C'est mon papa est parti.
Oui, il a vu.
Extrêmement fier, ouais.
Hey.
quand on se prénomme Oum, est-ce que ça crée des responsabilités, des devoirs?
Des devoirs maternels, parce que Oum veut dire mère.
Enfin, je ne pense pas que Oum Kalsoum ait fait beaucoup d'enfants.
Non, mais oui, enfin, bien sûr, tout le monde pense à Oum Kalsoum. Alors, Oum, c'est un, pas un préfixe, mais c'est la première partie de beaucoup de prénoms composés dans les peuples arabes et notamment nomades. Donc il y a Oum Lreit, Oum Kalsoum, Oum El Banin.
Et vous,
Oum Lreit. Oum Lreit. Des responsabilités, non, je ne pense pas. À la fois, je pense que les prénoms nous choisissent et après nous conviennent. J'ai vraiment pas aimé mon prénom pendant toute mon enfance.
Pourquoi ?
Bah parce que j'étais la seule à m'appeler comme ça, parce que c'était le prénom de ma grand-mère, donc c'est puisé dans un autre temps, ma grand-mère que je n'ai même pas connue.
Vous avez été un peu biberonnée à Oum Kalsoum, ou on n'écoutait pas du tout ça chez vous?
Si. Bah alors, moi, quand j'ai commencé à apprendre des chansons à l'âge de 6-7 ans avec mon player, je faisais play, pause, avec un double cassette, il y en a une qui jouait, et sur l'autre, j'enregistrais ma voix en même temps que l'autre jouait. Dans un anglais que je ne comprenais pas, évidemment, que j'écrivais en phonétique, en français. Et papa voyait que je faisais ça. Je faisais écouter mes cassettes et je chantais pour mes parents, les copains, tout. Et il me disait, écoute, s'il te plaît, apprends aussi. Si c'est pas pour toi, apprends juste pour moi. Une ou deux chansons de Oum Kalsoum et une ou deux chansons de Fairuz. C'est carrément dans tes cordes. Fais-le juste pour moi.
Fairuz est toujours vivante, hein. Diva libanaise.
Est toujours vivante, diva oui. Libanaise, superbe double école, Orient-Occident, incroyable.
La famille Rabbani, etc.
Exactement. Donc oui, bah, biberonnée à tout plein de choses, à un peu de musique classique, pas mal de jazz, la musique contemporaine des années 70 au Maroc, beaucoup de Nassel Riwen, beaucoup de Gilles Gilala. Et mon papa connaissait tout le répertoire traditionnel de la ville de Marrakech. C'était un excellent orateur, il connaissait les rythmes, il jouait avec ses mains et ses pieds et des tam-tams et tout ça. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, si lui m'a donné les talents, que ma mère m'a donné la force. Tout ça en fait, mon amour du verbe aussi, comment j'aime jouer avec les mots, écrire en derija, qui est venu tout d'un coup, hein, parce qu'avant je ne faisais pas ça. Mais je pense que c'est lui et ça vient petit à petit, au goutte à goutte, arroser ce qu'il y a peut-être en moi.
Dakshi, donc toi-même tu sais ce qu'on dit en fin de phrase. Juste une chose, quand vous avez vraiment appris des titres de Oum Kalsoum qui durent
bien
donc
sûr.
200 ans,
tout hein, à fait.
Quand on va à un concert, s'il y a un rappel, Full Sac de Couchage,
carrément.
Elle chantait en arabe classique ou...
Les deux. Il y a dans son répertoire des poèmes donc, qui sont écrits en arabe classique et d'autres qui sont en dialecte égyptien.
En dialecte égyptien. Mm-hmm. Vous avez déjà tenté, vous, de chanter en arabe classique? Parce que je reconnais un peu le darija, mais l'arabe classique, j'ai un peu de mal.
Pas dans mon répertoire. Mais en revanche, ce que je fais, c'est que je revisite, j'invite dans la darija des mots de l'arabe classique. Et je les darij, je les... amène à la darija.
C'est comme si un français faisait un texte en latin.
Exactement.
Et le francise un petit peu.
Absolument.
Voilà.
C'est exactement ça. Mais c'est pas par juste amour de la langue arabe. J'aime de plus en plus la langue arabe classique. La darija, c'est une langue parlée. Hein. C'est pas une langue qui s'écrit. Et maintenant, elle s'écrit.
Même. Donc, je rappelle que c'est le dialecte que l'on parle au Maroc.
C'est le dialecte arabe du Maroc, voilà. Ouais. Puisqu'il y a aussi le tamazirt, qui est le dialecte
absolument berbère.
Berbère. Non, mais c'est d'inviter aussi des notions que peut-être on n'ose pas ou on ne pratique pas. On n'a pas l'occasion de les dire dans la darija. Et qu'on dit dans la langue arabe écrite et qu'on retrouve dans les livres et dans la poésie. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal, donc je les invite dans la darija.
Est-ce que comme toutes les jeunes filles d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, vous étiez amoureuse de Farid Alatrache quand vous étiez petit?
Pas du tout.
C'est l'équivalent, j'allais dire, entre Frank Sinatra et Claude François. Parce
alors,
que
pas du tout.
Asman,
sa sœur. Oui.
D'une grande beauté.
Oui.
Mais ça ne fait pas forcément une bonne chanteuse, mais quand même.
Non, moi, dans les hommes de cette génération-là,
c'est
en tout cas
truc.
De cette. Non, pas du tout, Farid Atrash, Dieu me pardonne, et lui aussi, et toute sa famille, je le trouve insipide. Pardon.
Non, vous avez le droit. C'est des crouneries de l'époque, quoi.
Non, Mohamed Abdel Wahab.
Oui.
Dans la composition, qui est un génie, et aussi dans sa façon de chanter, d'interpréter.
Abdel Halim Hafez, peut-être. Non plus.
Bon, non, d'accord. Trop moderne.
Moi, je vais remballer mes
trop
chanteurs.
Trop moderne. Non, en revanche, Seyed Darwish, des choses un peu plus anciennes. Ouais, avec plus de sel, avec moins d'esthétique, plus roots un peu.
Et les contemporains occidentaux que vous écoutiez du Maroc, parce que vous avez comme des radios, des moyens de communication, Internet, donc on n'est pas coupé du monde.
Ben, en fait, jusqu'en 2005, il n'y avait que les radios nationales et pas encore de radios privées.
Il n'y avait pas Internet ?
Il y avait Internet, mais c'était les mails caramel, tout ça. Il y avait MySpace, enfin, c'est pas comme maintenant.
Est-ce qu'il n'y a pas une chanteuse américaine, anglo-saxonne, française ?
Ça, évidemment, mais ça, on les avait avec la parabole, avec les CD, avec les mini-disques. D'abord la cassette, le CD, donc tout ça, on a eu, évidemment.
Qu'est-ce qu'il y avait comme poster dans votre chambre ?
Ah, plein, il y avait George Michael.
Il est mort.
Il y avait George Michael, il y avait Stevie Wonder.
Il
est vivant. Il y avait Whitney Houston, évidemment. J'ai écouté tout ça. Bon, bah, j'étais adolescente dans les années 90. Donc, tout le R&B, soul et une école de chant vraiment intéressante.
Billie Holiday, peut-être, dans les
absolument.
Sarah Vaughan et la Fitzgerald, évidemment.
Tout ça, évidemment. Toutes ces filles.
Et chez les rockers, un petit peu, non ?
Alors, moi, je ne suis pas très rock.
Oh, allez.
Ouais, pardon, bah, je sais, mais.
Mais oui, mais.
Après, le rock, c'est une attitude. Je peux avoir l'attitude, mais la musique, non. En fait, je trouve que c'est. Je n'ai pas en moi souvent une colère ou quelque chose que le rock aiderait à évacuer. Je trouve que le rock est dur dans son son et dans sa dynamique. Et moi, j'aime les musiques qui font du bien, mais dans la sérénité un petit peu, ou dans la chaleur, ou dans le groove. Alors le rock, c'est bien. Évidemment, il y a des sommités. J'aime des gens, des rockers, des rockeuses, mais c'est pas une musique que j'écoute. J'aime la musique qui fait du bien, qui réchauffe et qui vient de la terre.
Avec quel disque on finit ? Un disque de votre album Dakshi ? Ou vous avez envie d'écouter un morceau particulier ? Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
Qu'est-ce que j'écoute en ce
Rien.
Moment ? Non, j'écoute. J'écoute une fille qui s'appelle Oleya. Oleya Mint Tirshitet. Terchitit, qui est mauritanienne.
Une des divas de Nouakchott.
Absolument.
Mais ces filles-là sont des pros très très rapidement, parce qu'elles commencent le chant à 6 ou 7 ans. Ça veut dire que quand elles ont 30 ans, elles ont déjà 25 ans de carrière.
Absolument.
J'allais dire les filles spirituelles de Dimi Mintaba, qui est un ouragan.
Exactement.
Qui était un ouragan.
Oui.
Fallait jamais passer derrière Dimi.
De toute façon, une Dimi, une Keltoum, c'est une fois dans l'éternité. C'est pas dans la vie. Ça se refait pas.
Oum, 23 à 24 avril, vous serez au Café de la Danse à Paris en concert. On n'en a pas parlé pendant l'émission, mais c'est pas grave. Avec les musiciens habituels, avec votre gang.
Exactement.
Ouais.
Damien, Yassir, Camille, Carlos, Natacha et Amar.
Et je viendrai dans les chœurs, ça c'était une nouveauté. Tant pis pour vous. On va ruiner votre carrière. Au bout de 10 ans, il était temps. Merci Oum, à
Merci
très bientôt.
Merci à vous, Laurence. Merci
Au revoir.
Beaucoup. Au revoir.